Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Aujourd'hui, j'anime l'émission avec Erika et Pierre. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous accueillerons deux représentants de la Ligue des droits de l'homme 49. Nous parlerons également de l'actualité, il y a du travail. Et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais commençons tout d'abord par ton éditorial, Erika. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et ça vient juste de se passer. Tu voulais t'en servir comme point de départ pour parler d'un phénomène plus large.
Ces derniers mois, on a vu des collectifs se dire féministes tout en ciblant certaines populations, certaines origines, certaines religions, au nom d'une prétendue protection des femmes. On a vu des actions médiatiques construites sur l'amalgame et la peur plutôt que sur les faits. Et pendant ce temps, celles et ceux qui travaillent réellement contre les violences conjugales, pour l'égalité salariale ou les droits reproductifs, continuent d'être caricaturés comme excessives ou excessifs. Pourtant, les chiffres sont là. En France, les violences conjugales continuent de tuer chaque année. Dans le monde, une femme sur trois subit des violences au cours de sa vie. Et dans plusieurs pays, les droits reproductifs reculent. Le féminisme, historiquement, n'a jamais été un combat pour exclure, mais pour élargir les droits.
Mais tu dis que cette inversion dépasse largement la question féministe.
Oui, parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une bataille autour du langage lui-même. Des chercheurs l'ont montré. Il y a une stratégie rhétorique très claire, consistant à retourner les mots. Ainsi, ceux qui défendent les droits humains deviennent accusés d'idéologie. Et ceux qui les attaquent se présentent comme les défenseurs de la liberté. On le voit très concrètement avec l'usage massif du mot « woke ». À l'origine, il désignait une vigilance face aux injustices raciales et sociales. Aujourd'hui, il sert surtout à disqualifier en bloc les mouvements féministes, antiracistes ou écologistes. Résultat, dénoncer des discriminations devient suspect. Réclamer l'égalité devient excessif et défendre les droits humains devient idéologique.
On parle souvent d'une rhétorique orwellienne pour décrire ça.
Oui, c'est intéressant parce que même ce mot est devenu un outil de confusion. Aujourd'hui, ce sont souvent ceux qui participent au brouillage du langage qui dénoncent une prétendue dérive orwellienne. Alors qu'au fond, Orwell, dans 1984, parlait surtout d'une chose, la manière dont le pouvoir peut vider les mots de leur sens pour rendre la réalité méconnaissable. Et c'est exactement ce qu'on voit.
Tu évoquais aussi l'actualité internationale.
Oui, parce que cette propension à l'inversion est mondiale. Prenons l'exemple du débat autour de l'Iran ces derniers jours. On entend souvent que s'opposer à une intervention militaire américaine reviendrait à soutenir le régime des Mollahs. C'est absurde et dangereux. Refuser la guerre ne signifie pas soutenir une dictature. Défendre le droit international ne signifie pas défendre un régime. C'est même exactement l'inverse. C'est refuser les violations, d'où qu'elles viennent.
Et c'est très préoccupant.
On ne parle plus d'atteinte aux droits humains, mais de fermeté. Plus de discrimination, mais de protection. Plus de solidarité, mais de naïveté. Petit à petit, celles et ceux qui rappellent simplement le droit deviennent suspects. Quand on brouille les mots, on brouille la réalité. Quand tout se vaut, plus rien ne vaut. Alors rappelons quelque chose de simple. Défendre les droits humains n'est pas une opinion parmi d'autres. C'est un engagement fondé sur le droit international, sur des principes universels. Dénoncer les violations des droits humains n'est pas extrémiste. Refuser les discriminations n'est pas radical. Exiger la dignité pour toutes et tous n'est pas idéologique.
Donc, nommer clairement les choses reste essentiel.
Oui, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Refuser la confusion organisée. Refuser qu'on fasse passer l'exclusion pour de la protection. Refuser qu'on transforme la solidarité en faiblesse. Refuser qu'on présente celles et ceux qui défendent les droits comme une menace. Il ne s'agit pas de posture morale, il s'agit de faits, de droits et de réalité. Et dans ce moment où tout semble se renverser, notre responsabilité est simple, rester lucide, précis et constant. Rappelez que défendre les droits humains n'est pas une opinion, c'est une exigence. Et face à l'inversion des valeurs, la seule réponse possible, c'est de ne jamais inverser les nôtres.
Merci Erika. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Patrick et Martin de la Ligue des droits de l'homme du Maine-et-Loire au 49. L'un ou l'autre, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir, merci.
Bonsoir.
Alors la LDH, on connaît bien, on croit connaître bien cette association. Il y a longtemps qu'elle a été fondée, je crois.
Alors, elle a été fondée en 1898 dans le cadre très emblématique du procès d'Alfred Dreyfus. Il s'agissait à ce moment-là, on était en plein délire, on peut le dire, xénophobe, antisémite et un peu paranoïaque. Un procès dirigé par l'armée, donc plutôt contre le droit que pour le droit. Et en fait, plusieurs personnes ont estimé nécessaire de devoir s'engager exactement à la manière de tout ce qu'a décrit Erika, en fait, pour la défense du droit de quelqu'un qui était en train littéralement de se faire broyer et pour bien d'autres raisons que celles qui l'accusaient, qui se sont avérées d'ailleurs complètement fabriquées et fausses. Donc c'est le cadre de la création de la Ligue des Droits de l'Homme. Et depuis cette époque, en fait, le but de la Ligue des Droits de l'Homme, c'est précisément à cette place du droit de défendre le droit des gens contre tous ceux qui en abusent. Et donc, souvent le droit des plus faibles, les pauvres, les femmes, les étrangers, voilà, on retrouve tout ce combo-là qu'on retrouve exacerbé maintenant. Je pense que la Ligue des Droits de l'Homme a jamais été aussi nécessaire que maintenant.
Et je crois que comme chez nous, là, dans notre groupe d'Amnesty Angers, vous fonctionnez aussi par commission, parce qu'il y a beaucoup de sujets, évidemment.
Oui, oui, nous avons plusieurs commissions. Il y a la commission Observatoire Angevin de la Liberté Publique, qui a été interviewée ici l'année dernière. Donc, citoyen du monde, donc pour l'aide aux étrangers. Commission éducation, enfance éducation, avec des interventions faites très régulièrement dans les écoles publiques et privées et collèges du département. Donc sur différents sujets d'actualité ou pas. Commission laïcité aussi, donc parce que la laïcité est quand même... on y porte beaucoup atteinte en ce moment, enfin depuis 2002 environ. Et puis commission lutte contre les idées de l'extrême droite. On dit bien idées parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui propage les idées de l'extrême droite.
Et vous faites partie de cette commission, tous les deux, vous la représentez.
Oui, exactement.
Et vous êtes uniquement des bénévoles dans la LDH, dans le 49 en tout cas ?
Oui, oui, nous sommes que des bénévoles, hein, association loi de 1901.
D'accord, et vous êtes beaucoup ?
Alors je crois que à cette date, on doit être 100-150, je crois, pour le Maine-et-Loire.
Un peu plus de 160. Ouais.
Et puis avec un groupe comme toujours, hein, dans les associations, un groupe un peu plus actif sur Angers, mais avec des réunions très régulières, au moins tous les 15 jours. En fonction des commissions, et puis une grosse activité. Alors pour ce qui concerne la lutte contre les idées d'extrême droite, eh bien depuis quelques années avec Patrick, on avait un peu émis l'idée qu'il pouvait être intéressant de sortir du microcosme un peu angevin et d'aller porter cette parole de lutte contre l'extrême droite un peu dans les campagnes, dans la périphérie d'Angers, sur l'ensemble du département. Donc depuis pratiquement un an et demi maintenant, on s'efforce de lier des contacts avec des collectifs comme par exemple celui qui existe au Lyon d'Angers, qui s'est créé autour de la crainte de voir s'installer les ex-membres de l'Alvarium dans leur café. Voilà, donc on est associé à leur action pour leur apporter une assistance juridique, puisque la Ligue des Droits de l'Homme, c'est une de ses particularités aussi, c'est d'être dirigée beaucoup par des juristes et de se mettre au service du droit de manière très concrète et pratique, y compris devant les tribunaux. Si vous regardez le site internet de la Ligue des Droits de l'Homme, vous allez voir que la chronique judiciaire, elle occupe une place importante avec un droit de suite, un suivi de toutes ces questions. Alors, on peut pêle-mêle évoquer, par exemple, les atteintes multiples de Robert Ménard à Béziers sur la crèche au milieu de sa mairie, par exemple. Il y a des plaintes régulières. Donc, de la libre pensée et de la LDH, mais depuis 4 ans, en fait, c'est un multirécidiviste.
Depuis 2014.
Voilà. Depuis 2014.
Il a commencé dès sa première élection.
Hein. Je rebondis sur le mot Béziers. Je crois que 2026, l'une de vos actions, ça a été de présenter ce documentaire qui s'appelle Béziers d'ailleurs.
Oui, qui s'appelle Béziers, l'envers du décor, qui est réalisé par un documentariste, membre d'ailleurs du Bureau national de la Ligue des Droits de l'Homme, Daniel Kupferstein. Donc il y a eu 4 représentations là en fin janvier, février dans le Maine-et-Loire. La dernière en date, le 16 février à Cholet, donc ça en fait une cinquième.
Il y a eu Saumur aussi, je crois.
Oui, Saumur, oui, Saumur, c'était le 5. Le Lion d'Angers, où il y a les ex de l'Alvarium qui ont monté leur bar associatif. Ou d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme, on a envoyé un courrier à la préfecture, donc en suspicion de reconstitution de Ligue dissoute, donc ils sont un peu dans le collimateur. Et la Ligue des droits de l'homme est aussi partie civile au procès qui va avoir lieu le 5 mai, déférant donc Jean-Eudes Gana pour ses propos racistes de la fin d'année dernière.
Et comment ça s'est passé alors ces temps-là? Donc c'était le documentaire et après des débats?
Oui, c'est ça.
De parole, fait, vous étiez présent peut-être?
Voilà, ouais. À chaque représentation, on était là. L'idée, c'est de présenter le film, qui, alors en général, a un effet assez de stupeur hein, sur les gens, parce que c'est, comme certains nous l'ont dit, on est assez proche de la dystopie. Même au-delà, dans cette manière qu'a Robert Ménard d'avoir mis en coupe réglée complètement la mairie de Béziers et d'avoir mis au service de sa propagande, en fait, le journal municipal. C'est le point de départ, c'est le fil conducteur du documentaire qui montre comment il a complètement transformé le journal municipal à des fins de propagande tous azimuts en fait. Et il assomme les gens de ça jusqu'à les fatiguer puisque les gens ne vont plus voter en fait, ce qui le favorise en fait. Et puis après la diffusion du film, on ouvre le débat enfin, de manière complètement ouverte. Et c'est vrai que les gens ont besoin de parler de cette crainte de la montée des idées d'extrême droite.
C'était surtout un public qui était déjà convaincu?
En grande partie, mais bon, on a quand même eu quelques novices, dirions-nous, qui ont posé des questions intéressantes et surtout qui se sont étonnés de l'ampleur des dégâts, quoi. Parce que sur ce journal municipal, on ne trouve aucune information d'ouverture de crèches, de piscines, de services publics. Tout est axé sur la communication envers des ennemis intérieurs à Béziers. Le journal La Dépêche du Midi, qui en prend plein la figure constamment parce qu'ils font leur travail de journaliste. Les opposants, les associations qui font leur travail d'opposition et d'association en prennent aussi plein la figure, avec leurs photos et leurs noms aussi jetés en pâture dans le journal. Donc,
et les gens sont dupes, les gens de Béziers, les habitants?
Ça, c'est assez compliqué à voir. Le film montre bien qu'il y a quand même un tissu associatif et de gens qui réagissent assez vivement et qui se laissent pas faire. Après, c'est difficile parce que le film montre bien aussi que, bien installé dans sa mairie, personne n'ose s'opposer à Ménard. Et donc, je pense qu'il y a un peu de l'ordre de la stupeur, en fait, de gens qui sont un peu atones, en fait, devant ce qui se passe. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que d'élection en élection, il a de moins en moins de suffrages.
D'accord.
Et sur le nombre d'inscrits, entre la première et la deuxième élection, bah, il passe de 31% des inscrits à 29%. Donc, ce qui est rassurant en se disant qu'il a quand même moins de partisans, mais comme il y a moins de gens qui votent, proportionnellement, il reste en place. Et ça pose un vrai problème démocratique, je pense.
2020, sa dernière élection, 56% d'abstention.
Donc les municipales arrivent,
oui.
Comme Amnesty, vous êtes apolitique.
Mmh.
Voilà, donc en revanche, on peut donner des conseils, entre guillemets, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait? Des choses en particulier pour lesquelles il faut être très vigilant? Je pensais aux caméras.
Voilà,
à
la sécurité qui est l'obsession numéro un de tous les élus maintenant. Hein, vu
de beaucoup d'élus.
De beaucoup d'élus, oui. Même
tous,
certains de gauche aussi. Donc, l'armement de la police municipale, qui contrôle, parce qu'ils sont pas contrôlés par le procureur de la République, quelle identification, quand on voit déjà que les policiers nationaux, on a du mal à les reconnaître, quid de la police municipale, l'augmentation de la vidéosurveillance, avec toujours en toile de fond les systèmes algorithmiques de reconnaissance faciale et autres, qui en plus...
Qui devait disparaître après les JO,
voilà,
mais qui sont toujours là.
Qui sont toujours là. Et cette inflation sécuritaire, en plus, n'apporte pas d'amélioration sur la sécurité au quotidien. Alors après, dans le registre sécurité, dans certaines villes, on voit apparaître aussi des polices privées d'organismes publics tels que les bailleurs sociaux. Qu'est-ce qui deviendra sur ce thème à Angers, quoi? Donc...
Restons vigilants.
Voilà, et puis les atteintes aussi, et puis la diminution de l'enseignement public, avec la part croissante de l'enseignement privé. alors que l'enseignement public, c'est la base de la République.
Et on fait la boucle avec la laïcité.
Voilà, voilà. Autre grand problème, oui.
Et comment fait-on pour vous contacter si on veut vous aider ou participer ?
Eh bien, vous allez déjà voir le site, le blog de la LDH 49, son compte Instagram, vous regardez les publications que la LDH 49 émet. Et puis, il y a un numéro de contact, une adresse email de contact pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, ou l'adhésion directement sur le site de la LDH nationale. On peut adhérer en ligne et en fonction de votre lieu de résidence, la section la plus proche sera informée et prendra contact avec vous.
Merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear you singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the name
streets of Minneapolis.
Et vous venez d'écouter Streets of Minneapolis, une chanson de l'auteur-compositeur-interprète états-unien Bruce Springsteen. Ce protest song, comme on dit là-bas, a été écrit et publié quelques jours après la mort d'Alex Pretty et quelques semaines après celle de René Good, des mains des agents de l'ICE, ou ICE, de Donald Trump. Ils s'aiment pas tous les deux, je crois, le chanteur et le président. Allez, de retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, c'est bientôt l'heure des actualités, mais tout d'abord, écoutons la chronique de l'Antenne Jeune, qui est écrite ce mois-ci par Louise et enregistrée par Victoria.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'Antenne Jeune d'Amnesty d'Angers. Et aujourd'hui, pour notre chronique, nous traversons l'Atlantique pour alerter sur une situation qui s'aggrave dangereusement. L'intensification des raids migratoires et la politique de tolérance zéro menée par l'ICE, l'agence fédérale américaine chargée du contrôle de l'immigration aux États-Unis. Depuis le début de l'année 2026, nous assistons à une escalade d'ICE. Amnesty International a d'ailleurs publié une note d'urgence ce mois-ci, qui parle d'une politique qui contribue à un véritable climat de terreur au sein des communautés migrantes. L'objectif est d'instaurer un climat de peur généralisé. Ce qui est frappant dans les derniers rapports, c'est que ces opérations ne se limitent plus aux lieux de travail ou aux centres de rétention. Elles envahissent désormais l'espace public et privé. Des rafales sont organisées devant les écoles, aux arrêts de bus, et même dans certains cas, à la sortie des hôpitaux. Les chiffres sont alarmants. Les organisations de défense des droits civiques rapportent une augmentation de plus de 40% des arrestations en extérieur par rapport à l'année dernière. L'impact psychologique de cette traque n'est pas négligeable. Des familles entières vivent cloîtrées, paralysées par la peur d'une séparation brutale. Des parents n'osent plus emmener leurs enfants à l'école, ni aller travailler pour nourrir leur famille. À cela s'ajoutent des conditions de détention critiques dans les centres de l'ICE, marquées par la surpopulation et un accès aux soins toujours inacceptable. Au-delà de l'aspect humain, c'est une violation systématique du droit. Le principe de non-refoulement en droit international est régulièrement bafoué. Des personnes sont renvoyées vers des pays où leur vie est en danger, sans examen sérieux de leur demande d'asile et souvent sans accès à un avocat durant les heures critiques de leur détention. Le système juridique lui-même est contourné. En effet, de nombreux mandats d'arrêt présentés lors de ces opérations sont purement administratifs, non validés par un juge indépendant. Il est révoltant de constater que l'on traite des êtres humains, parfois présents depuis des décennies, comme de simples numéros de dossier. Rappelons-le, 68% des personnes arrêtées lors de ces récentes vagues avaient un emploi stable et aucun casier judiciaire. On ne parle plus de criminels, mais de travailleurs, de parents et de membres actifs de leur communauté. C'est une criminalisation de la pauvreté et de la migration qui crée une génération d'enfants traumatisés. Aujourd'hui, 15% des personnes détenues sont des demandeurs d'asile en attente d'une audience pourrait ne jamais avoir lieu avant leur expulsion. Face à cette pression, il y a des élans de solidarité. Des réseaux d'avocats, des églises sanctuaires et des citoyens se mobilisent pour soutenir leurs voisins. C'est un acte de résistance civique immense. La déclaration universelle, le droit à un procès équitable, la protection de la vie de famille, toutes ces obligations que les États-Unis ont signées sont aujourd'hui piétinées au nom d'une soi-disant sécurité nationale. Notre rôle est nécessaire. Nous ne pouvons pas rester aveugles face à ces actions, car le silence, nous le savons, a mené dans l'histoire à de terribles actions, s'instaurant petit à petit dans la peur des spectateurs impuissants. Nous nous devons de relayer les informations, d'être le porte-parole des victimes. Chaque partage d'informations sur nos réseaux sociaux, chaque discussion autour de nous a son importance pour briser ce climat de terreur et garantir le respect du droit international. Notre mission est de rappeler que ces textes existent et qu'ils sont faits pour protéger des personnes comme celles qui sont traquées aujourd'hui aux États-Unis. Merci de nous avoir écoutés et de rester engagés à nos côtés.
Merci à Louise et à Victoria, et vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Droit Devant. C'est maintenant l'heure des actus d'Amnesty International et des droits humains.
Depuis les attaques américaines et israéliennes en Iran le 28 février, une escalade sans précédent des hostilités est à l'œuvre au Moyen-Orient. 10 pays sont désormais touchés par les opérations militaires. Le Croissant Rouge iranien recense déjà des centaines de décès parmi les civils. Plusieurs bâtiments ont été touchés, parmi lesquels une école et des centres médicaux. La riposte iranienne dans plusieurs pays de la région est aussi à l'origine de dizaines de morts, de blessés et de dégâts considérables sur les infrastructures civiles. Après des années de conflits et la récente répression sanglante en Iran, les populations civiles sont de nouveau en première ligne des hostilités. La menace d'un conflit international prolongé fait craindre une nouvelle catastrophe humanitaire et fait peser de graves risques sur l'ordre et le droit international.
Et une nouvelle fois, les autorités iraniennes ont coupé l'accès à Internet dans tout le pays. Après les coupures massives imposées durant la répression de janvier, les autorités privent encore la population de tout moyen de communication et le reste du monde, évidemment, d'accéder à des informations cruciales sur la situation sur place. Alors on est en particulier sans nouvelles du sort des prisonniers et prisonnières dans le pays, y compris celui des milliers de manifestants arrêtés durant les soulèvements de janvier. Nous savons pourtant que des explosions ont eu lieu à proximité des prisons et nous craignons que ces nouvelles attaques ne justifient à nouveau une répression massive contre le peuple même iranien.
Et depuis ces frappes iraniennes, Israël bloque tout déplacement en Cisjordanie et dans les territoires palestiniens occupés. Tous les points de passage vers ou en provenance de ces territoires ont aussi été fermés. Résultat, la population palestinienne de Gaza se retrouve une fois de plus privée d'aide humanitaire. Par ailleurs, le 3 mars, les autorités israéliennes ont lancé des ordres d'évacuation massifs au sud et à l'est du Liban. Dans un mouvement de panique générale, des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer pour fuir les hostilités.
Est-ce que vous avez entendu le discours de Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol ? Trump avait menacé de cesser tout commerce avec l'Espagne, lui reprochant son refus de laisser les États-Unis utiliser deux bases américaines situées en Andalousie, des bases héritées d'un accord signé entre Washington et Madrid sous Franco. C'est pas tout neuf. La réponse de Pedro Sanchez a été claire. Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est également contraire à nos valeurs et à nos intérêts simplement par peur des représailles. Eh ben oui, c'est possible de s'opposer à Trump et de dire non à la guerre.
L'Ukraine tient encore debout, 4 ans après l'invasion de l'ensemble de son territoire. Sur place, les équipes d'Amnesty enquêtent sans relâche sur les violations des droits humains avec pour objectif de rendre justice. Cet hiver est le pire que l'Ukraine a connu depuis le début de l'invasion. Les températures chutent jusqu'à moins 20. Les frappes russes s'acharnent contre le réseau énergétique et provoquent des coupures d'électricité massives dans tout le pays. Les populations peinent à se nourrir, à se réchauffer et restent coupées du reste du monde pendant des heures, voire des jours entiers. La stratégie de la Russie vise à saper le moral d'une population qui souffre, mais qui résiste en tissant un rempart de solidarité.
Et en ces journées de mars, alors que nous célébrons les avancées obtenues en matière des droits des femmes, eh bien n'oublions pas que tous ne sont pas acquis et que parmi eux, le droit à l'avortement est fortement en danger dans beaucoup de pays. Il touche à l'autonomie, ce droit, à la santé, à la liberté de disposer de son corps. Et quand il est fragilisé, c'est toute une société qui recule. Et aujourd'hui, en Europe, ce droit est loin d'être pleinement garanti. Il est fragile, inégal, constamment remis en cause. Une réalité d'autant plus alarmante que ce droit est crucial pour tous et toutes. Dans certains pays européens, comme la Pologne, Malte ou le Liechtenstein, l'avortement n'est autorisé que dans des circonstances très limitées. Et il y a un pays où il reste totalement interdit, le savez-vous ? C'est à Andorre. Ce qui rappelle que même sur notre continent, des droits fondamentaux que l'on pensait acquis ne le sont pas. Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM, c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Le mois de mars, c'est le mois du genre à l'Université d'Angers. Un mois d'échange et de création pour bousculer les stéréotypes et repenser les luttes pour l'égalité. Cette année, la thématique est militer. Un choix qui résonne particulièrement dans un contexte où les droits des femmes et des minorités restent au cœur des luttes sociétales. Allez vite sur le site de l'université pour découvrir le programme.
Toujours dans le cadre du mois de l'égalité, c'est le festival Tout Feu, Tout Flamme. C'est à la maison de quartier du Carnet, les 27 et 28 mars. Il y a des spectacles de stand-up féminin, projections, débats, marchés de créatrices locales, tables rondes, ateliers artistiques, actions de prévention, podcasts, etc. Et j'oublie le loto. Voilà un programme bien alléchant, sans oublier le concert du vendredi de notre très chère chorale féministe, les Louise Saint-Michel.
Je fais de la pub. Ah pardon. Cap Ciné aux 400 coups, le vendredi 13 mars à 13h45 et à 20h30 avec le film La Maison des Femmes de Mélissa Godet. Le but de cette fiction prenante, c'est de faire découvrir les luttes quotidiennes de celles et ceux qui soutiennent les femmes victimes de violences, pour les aider à se reconstruire.
Et n'oubliez